je voulais. J'ai peu de thèmes de discussion parce que j'ai trop de thèmes de louanges. Et d'abord, la première chose à remarquer, c'est que sur cette question de la civilité, Philippe a un mérite qui a été reconnu par une adversaire aussi déterminée, aussi malveillante que John Scott, c'est qu'il a été le premier. Dans la polémique que cette historienne américaine avait intentée au féminisme à la française, elle indiquait au lecteur de Libération l'existence d'un article de Philippe qui date de 1989, donc 25 ans déjà, sur les femmes et la civilité, aristocratie et passion révolutionnaire dans le débat numéro 57. Philippe a fait beaucoup pour retrouver l'intérêt et pour donner de la légitimité à un secteur de la recherche qui n'était pas tombé dans l'oubli, mais dans un certain discrédit. Ce n'est pas que la politesse française ait jamais été entièrement oubliée, elle vivotait et elle continue de vivoter entre les traités de self-help et les arts de la table. Mais c'est tout autre chose de lui donner le statut de question intellectuelle, et c'est ce qu'il a fait. Enfin, on voit que la chose n'est toujours pas complètement gagnée dans les réactions à son grand livre, puisque elle se partage entre ceux qui entrent, même à petits pas, dans ce que Philippe appelle une conversation, et je reviendrai sur ce thème, cette longue conversation européenne, qui a pour sujet la politesse française, mais cela s'étoile vers l'Angleterre d'abord, vers la Russie, vers ce que tu appelles une géographie. Cette longue conversation prolongée sur plus d'un siècle et qui articule la question des manières à la question du régime politique. Et puis, on voit aussi ceux qui s'entêtent et qui veulent l'enfermer dans un présent à courte vue, dans notre présent, celui où la seule question qui se pose serait « Êtes-vous pour ou contre les incivilités ?» Alors, bien sûr, l'un des mérites de ce livre, c'est de rendre un tel binarisme absolument dérisoire. Ceux qui rejettent la politesse en lui reprochant d'exprimer et de n'exprimer que le rapport de courtisan servile à un monarque asservissant apprendront qu'ils ne font que reprendre les termes de la vulgate anti-française du XVIIIe siècle, vulgate anglaise essentiellement. Et ils repéreront désormais un French bashing qu'on peut suivre de Montesquieu jusqu'à André Suarez, que je le disais ces derniers temps, et qui traite Louis XIV de turc chrétien. Turc chrétien. Vous allez me dire, Montesquieu avait un peu commencé sur cette voie, mais il y a eu une fusion des thèmes de la propagande anglaise anti-française et du libéralisme toujours méfiant à l'encontre du pouvoir. Et le point de fusion, c'est évidemment l'événement révolutionnaire qui l'a permis. Parce que, évidemment, même si Montesquieu était inquiet de la concentration des pouvoirs de Louis XIV, il ne jetait pas pour autant le discrédit sur les manières de l'aristocratie française. Alors, Philippe est parti, je crois, d'un jeu à trois. Et l'exploration a d'abord commencé par le triptyque Hume-Rousseau-Kant, avant de s'élargir par les apports des auteurs post-révolutionnaires comme Madame de Staël, Stendhal, Tocqueville, mais aussi de Voltaire et de Montesquieu surtout, qui ne fut inclus que plus tard, mais qui a certainement donné le ton de cette conversation, je dirais, même via Rousseau. Pense avec les catégories de Montesquieu, qui a donné les thèmes, qui a donné le ton et qui a soufflé le sous-titre du beau livre de Philippe. Et je dirais que ce volume, le volume fait songer à cette image qui est, il me semble, dans Mallarmé, d'un éventail où chaque pâle de l'éventail se déploie en éventail. On a vraiment l'impression d'un jeu qui s'ouvre, chaque chapitre pouvant se lire indépendamment, comme une synthèse de la doctrine d'un grand auteur, synthèse évidemment étonnante, puisque au lieu de prendre par les thèmes attendus, je ne sais pas moi, la tolérance chez Voltaire, la loi chez Montesquieu, la volonté générale chez qui vous savez, c'est par ce couple de politesse et de civilité qu'on entre à chaque fois dans une vision. Alors, je vais me concentrer sur le chapitre où je suis un peu capable d'être juge. Je veux parler de Rousseau et je dirais que j'admire l'équanimité de Philippe en sachant de quel rejet il est parti, de quelle irritation anti-rousseauiste pour arriver à une restitution aussi magistrale, aussi intègre et scrupuleuse qu'est la sienne. Cette irritation, je ne dis pas que je la partage, mais on la comprend parce que Rousseau est le seul des auteurs considérés dont les arguments sont immédiatement audibles par nos contemporains. Il faut expliquer Hume, il faut détailler Montesquieu. Rousseau est dans l'air du temps. L'appel à la sincérité, la dénonciation de l'hypocrisie, le soupçon de domination jeté sur les formes de la civilité aristocratique, on est chez nous. Avec lui, on est apparemment entré dans le rejet démocratique des formes. Rousseau et Ruvenogien, même combat. Rousseau, il est vrai, est radical, et selon une jolie formule de Guillaume Barrera, il a fait pour les manières ce que La Rochefoucauld avait fait pour les vertus, les rattacher à l'amour-propre. Il en a montré le pouvoir uniformisant et déshumanisant, puisque les hommes et les femmes ne sont plus que des marionnettes, que les convenances tirent les fils et les font agir de façon prévisible et mécanique, prévisible parce que mécanique. Mais cependant, si radicale soit la critique rousseauiste, Philippe l'inclut dans la conversation, et il a raison de le faire, parce qu'une incartade enrichit la conversation du moment que cette dernière est susceptible de la reprendre, de l'écouter d'abord, de la remettre à sa place, comme Kant le fait avec Rousseau. Rousseau, ce n'est pas celui qui a cassé la baraque, c'est celui qui a donné un nouveau jeu d'arguments avec lesquels s'expliquer. Car bien sûr, l'éventail tient ensemble, bien sûr les pales sont liées l'une à l'autre, de l'un à l'autre auteur, les arguments se développent, s'infirment, se répondent. Et bien évidemment, l'exigence de vérité dans les rapports entre les hommes, ce n'est pas une question dont la civilisation polie puisse se débarrasser. Elle n'a aucun intérêt à le faire. Si Kant a pu commercer avec la critique rousseauiste, c'est aussi parce que le subtil Diogène, l'ennemi de l'intérieur de la civilité française, est subtil. Et il est subtil parce qu'il est d'abord allé à bonne école auprès de sa bienfaitrice, Madame de Voiron, c'est célèbre. Elle lui a appris le bon ton. Mais dans des textes moins passants que les confessions, on apprend qu'avant de la rencontrer, il se définissait comme un avorton burlesque, un orgueilleux avorton à la fierté burlesque, et cette femme l'a métamorphosé. Je cite un texte de 1742, « À peine à ses regards j'avais osé paraître que de ma bienfaitrice apprenant mes erreurs, je sentis le besoin de corriger mes mœurs. » Qu'est-ce que c'était, corriger ses mœurs, en 1742 ? Je cite ces vers qui sont de Rousseau, où il y a eu un Rousseau poète, on le connaît mal. « J'abjurais pour toujours ces maximes féroces du préjugé natal, fruit amer et précoce, qui, dès les jeunes ans, de leurs acres levains, nourrissent la fierté des cœurs républicains. J'appris à respecter une noblesse illustre, qui même à la vertu s'est ajoutée du lustre. Il ne serait pas bon, dans la société, qu'il fût entre les rangs moins d'inégalité. Rousseau a commencé par renier Genève et par approuver l'inégalité. Il a commencé par se polir avant de se hérisser. Et il s'est poli comme on faisait en ce temps-là, par amour ou, si le terme est trop fort, par tendresse, pour une femme. C'est pourquoi il ne peut pas rompre absolument avec la civilité aristocratique. Il y tient par son rapport aux femmes, ce qui pour lui est essentiel. D'où son entreprise étrange, consistant à faire entrer la civilité dans le ménage, à loter des salons pour la mettre à la maison. Rousseau veut moins éradiquer la politesse aristocratique, comme ses épigones, que l'ôter des sociétés qui l'ont vu naître, qui l'ont fait naître, pour l'acclimater dans l'intimité. Est-ce que c'est une chimère? Est-ce qu'il peut exister une familiarité polie ou une politesse familière? Ce n'est pas le lieu de trancher, mais je voulais simplement marquer mon approbation admirative pour le traitement si fin du rapport amoureux que Philippe décrit à très juste titre comme une inégalité sans domination, assortie d'une égalité sans concurrence. Je l'ai déjà dit, je suis vraiment jalouse de la formule. J'aurais aimé la trouver moi-même. En conclusion, et puisque je suis la littéraire de service, je voudrais dire deux mots du style de Philippe. Et permettez-moi ce slogan, Philippe, c'est encore hier. Et quel soulagement que le passé existe, qu'il paraisse, qu'il soit notre ressource. Je ne pense pas d'ailleurs au XVIIIe siècle, cet heureux temps où il n'y avait rien à haïr, comme dit Stendhal que tu cites, encore que la haine ne soit vraiment pas dans tes cordes, mais je pense plutôt à la France de la Troisième République, à la France de Thibaudet, qui donnait un tel sentiment de richesse et de confort culturel. Si tu me ramènes à ce sentiment d'une présence de cette France-là, cela vient du fait que la culture là est si vaste et si étonnamment compréhensive qu'on n'en a plus l'habitude, que aussi l'écriture est incroyablement tranquille. Philippe écrit large, comme s'il ne risquait pas d'être incompris. Et cette confiance qu'existe des lecteurs lettrés, des lecteurs capables d'apprécier le balancement d'une symétrie ou de se reposer sur les accoudoirs des subordonnés, cette chose qui disparaît dans le français contemporain, les propositions subordonnées, c'est un confort étonnant. Cette langue, nous l'avons perdue, je dirais que moi-même, je la perds, je me surprends à faire des phrases nominales. Nous vivons dans une période de très grande maigreur stylistique, et à côté de cela, la phrase de Philippe Reynaud, qui a le moelleux et l'ampleur d'un canapé bien capitonné, fait paraître les phrases journalistiques auxquelles nous sommes de plus en plus réduits. Elle les fait apparaître, ces pauvres phrases, comme des tabourets en bois. Au nombre de mes plaisirs, je suis heureuse que la phrase française se redéploie comme si de rien n'était, comme s'il n'était rien arrivé, avec cette complexité qui seule permet la subtilité. Et pour finir sur une note plus heureuse que Marianne dont vous parliez, Denis, vous disiez La terre n'est pas faite pour la politesse, ou la modernité n'est pas faite pour la politesse, parce qu'elle ne fait qu'y souffrir. Je crois qu'elle n'a toujours fait qu'y souffrir, que la politesse et cette légère incommodité, que l'homme plus poli, c'est toujours celui qui se fait marcher sur les pieds, juste au moment de comprendre que cette souffrance n'en est pas vraiment une, et que s'incommoder pour notre prochain n'est pas si douloureux que ça, ou que c'est une douleur qu'on peut prendre avec un peu de dandysme.